bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Albigès, votre radio préférée, pour un lire des livres où je reçois aujourd'hui Martine Gobi. Bonjour.
Bonjour.
Qui vient pour nous parler de son livre Le souffle du sang, qui est paru, alors je ne me souviens plus en quelle année celui-là ?
En 2017.
En 2017, puisque depuis, elle en a publié un autre, mais on en parlera plus tard. Donc Le souffle du sang, qui est un récit de vie très personnel. Alors, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter pour les auditeurs, s'il vous plaît ?
Oui, donc je suis anciennement professeure de lettres-histoire, où j'étais à Rascol, en fait. J'étais au lycée Rascol. J'ai bourlingué pas mal, puisque je suis pas, j'ai pas vécu tout le temps à Albi. Je suis allée un petit peu partout en France. Voilà. Et ma passion, bien sûr, vous devez vous en douter, c'est l'écriture. Et toute ma scolarité, toute mon expérience professionnelle, je l'ai consacrée souvent à des ateliers d'écriture avec mes élèves. Et c'est comme ça que je pense qu'ils ont réussi leur scolarité, en partie.
Alors celui-là, est-ce que c'est votre premier livre ou vous en aviez écrit d'autres précédemment ?
J'avais écrit des nouvelles, notamment pour le concours du Crous à Toulouse, quand c'était ouvert aux étudiants. Et c'est un peu grâce à ça que je me suis lancée là-dedans, parce que j'avais gagné plusieurs prix, plusieurs fois. Après, ils m'ont mis au jury. Et maintenant, d'ailleurs, je suis présidente du jury du Crous pour la nouvelle. Voilà. Et j'ai écrit donc un recueil de nouvelles que je vais refaire paraître, je le remodifie. J'ai eu, on va dire que mon enfance dans l'Aveyron, et chez mes grands-parents notamment, c'est un peu ma source d'écriture, parce que j'étais une grande rêveuse, j'étais souvent seule, donc quand on est seul, on gamberge, et voilà, c'est... J'ai toujours un petit peu écrit, mais tous les écrivains disent ça, donc c'est un peu... C'est pas très original, en fait.
Alors là, c'est pas un recueil de textes courts,
non.
C'est vraiment un récit très personnel. Du coup, le qualifier de roman n'est peut-être pas tout à fait juste.
Y a un début, une fin qui est heureuse. Mais c'est vrai que c'est plus, on va dire, c'est plus un témoignage. On peut le classer dans les témoignages, même si je tiens au terme de roman, parce que lorsqu'on écrit, on transfigure la réalité et on a. C'est pas un journal jour après jour, hein, voilà, c'est ça. Donc la mémoire, elle se fermente au fur et à mesure que l'on écrit et ça donne quand même un roman. Si j'avais voulu faire un témoignage, je ne l'aurais pas écrit comme ça.
D'accord. Il y en a qui parlent d'autofiction aussi.
C'est de l'autofiction, voilà.
Alors, si vous le voulez bien, j'ai envie de commencer par la lecture d'une des premières pages de votre livre. Vous êtes d'accord ?
Oui, tout à fait.
À 52 ans, je ne peux même plus pleurer. C'est comme un voyage terrifiant. Un chaos. Une marche lente sur l'absurde blancheur glacée. Mon corps est cerné de barbelés et mon cerveau déchiré. Parfois, je regarde le pâle ciel de novembre à travers les vitres closes de la chambre. À 52 ans, de l'énergie et des projets plein la tête, le couperet est tombé. Le jour où Monsieur S. a fouillé dans mon squelette pour prélever ma moelle. Quelle familiarité! Quelle audace! Il m'a laissé sortir de l'hôpital le temps d'un week-end, le temps d'aller à Toulouse pour la soirée d'inauguration du magasin de mon fils. Ce soir-là est une fête, une victoire sur les prévisions moroses des enseignants. À 22 ans, Victor tourne le dos à une météo maussade. Je suis terriblement fière de lui, et je souris aux gens, bêtement assise sur le canapé en cuir vintage. La boutique est très belle, tout en briques, avec ses meubles anciens récupérés dans des trocs ou sur le bon coin. On se sent bien comme dans un appartement d'artiste. Ça va ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Je ne sais pas, ne me fais pas la bise, j'ai de la fièvre. Je regarde la cantinière que j'ai customisée avec Élise et les rideaux des cabines. C'est élégant. J'ai eu le temps de les coudre quand la fièvre me laissait un peu de répit, juste à temps. Le lundi matin, la secrétaire de l'hôpital m'appelle. Le médecin veut me parler. C'est Patricia qui m'accompagne. Il vaut mieux. Dans le bureau, j'attends qu'il parle le premier. Avec douceur, il m'annonce que j'ai une leucémie. Il ne sait pas encore laquelle, mais il me dit que c'est grave. Ces mots sont emballés comme un sourire, comme un cadeau, accompagnés d'un ticket d'entrée au service de Madame H. À Toulouse, faut pas traîner. Alors peut-être pas facile pour vous de revivre ce moment-là.
C'est vrai que c'est difficile, oui. Oui, oui. Je pense que j'ai une blessure comme une entaille, quoi, en fait, qui se refermera difficilement. Voilà.
Et alors, suite à ça, vous allez suivre tout un parcours hospitalier. Mm-hmm. Assez difficile à vivre.
Oui, c'est très, très, très compliqué, oui, effectivement, puisque au début, on prend beaucoup de cortisone pour que la chimio prenne effet. Donc, dans cette période-là, bizarrement, je suis surexcitée. J'ai la pêche. Et c'est là que je commence à écrire le souffle du sang. Qui s'appelait pas d'ailleurs le souffle du sang au départ, ça s'appelait au 7e, puisque j'étais au pavillon Dieu la foi à Purpan. Et donc, j'étais en forme, enfin, j'allais bien, j'avais une grosse angoisse, bien sûr, mais à cette période-là, ça allait. Après, effectivement, le chaos est arrivé, parce que la chimio, c'est quelque chose de très, très violent, d'autant plus qu'on fait sans arrêt, enfin, moi, je faisais sans arrêt des allergies. J'avais toujours un tas de personnes autour de moi qui me prenaient le cœur pour voir si j'allais pas m'écrouler. Enfin bref, c'était vraiment très très difficile. Et puis, j'avais très peur effectivement de la chimio parce que on ne voit pas ce que c'est. Les produits sont tous de la même couleur. Bon, il y en a quelques-uns qui sont acidulés, ils peuvent être roses, verts, etc. D'ailleurs, le rose, je m'en rappelle, en général, il me faisait des effets terribles. Je ne me souviens plus, par contre, du nom du tout. Et j'avais souvent quelqu'un avec moi pour m'accompagner dans ces moments-là. Je suis restée très longtemps. Ça m'a paru une éternité, en fait, hein, parce que lorsqu'on a la leucémie, il faut faire baisser les blasts assez vite pour qu'ensuite on puisse espérer une greffe. Voilà. Donc ça ne baissait pas. Il fallait tout le temps refaire de la chimio assez souvent. Et donc après viennent les nausées et une étrange fatigue qui vous colle au lit. On ne peut plus rien faire.
Donc c'est à ce moment-là que vous avez décidé de commencer à prendre des notes.
Oui, j'ai écrit. J'ai vraiment écrit au début, oui, effectivement. Et c'était des moments de bonheur, quoi. Parce que c'est une thérapie. Et quand je pouvais écrire le matin, en fait, j'étais bien pour la journée, quoi. Et puis, comme je le dis souvent, c'est une maladie très anxiogène. C'est impalpable, c'est difficile à expliquer. Et le fait d'écrire aussi, ça m'a permis de retrouver une certaine dignité parce que quand on a cette maladie, et comme beaucoup d'autres cancers, on n'est plus rien dans la société. On est une patiente, on n'est plus quelqu'un. Mmh. Voilà. Et donc... Bon, j'ai eu ma petite célébrité à l'Oncopole et à Purpan, puisque pour les médecins et les internes, j'étais celle qui écrivait, quoi. Voilà.
Ah. Et par l'écriture, vous êtes aussi repartie dans le passé.
Oui, alors c'est simple. On m'a dit que cette leucémie que j'avais attrapée, cette leucémie qui m'avait écrasée, c'est une leucémie lymphoblastique de type B. Et cette leucémie est souvent une leucémie que les jeunes enfants attrapent. Voilà. Mmh. D'ailleurs, bizarrement, à 2 mois près, j'ai un petit cousin qui a eu la même leucémie que moi. Peut-être pas la même exactement, mais qui a eu la leucémie comme moi. Et il se trouve qu'il vit dans l'Hérault et qu'il a passé beaucoup de temps, effectivement, au milieu des pesticides. Voilà, au milieu des vignes. Mmh.
Donc, comme vous, quand vous alliez en vacances chez vos grands-parents ?
Alors non, justement. Chez mes grands-parents, d'ailleurs, Je dis que chez mes grands-parents, non, mes grands-parents à l'époque ne passaient pas du tout, ne mettaient pas des pesticides dans les champs. Et grâce à mon grand-père, il y avait des haies dans les champs. Il s'enchantait quand il regardait les hirondelles qui rentraient dans l'étable. Et puis les champs étaient remplis de coquelicots et de bleuets. C'est ce que je dis d'ailleurs au début.
Ah oui, vous avez mis en exergue une phrase, alors, vous pouvez la lire si vous voulez.
Oui, oui. Les cancers naissent dans les champs de blé, c'est pour ça qu'il n'y a plus de coquelicots, cela fait des trous dans les fenêtres et des courants d'air dans les veines. Voilà. Donc effectivement, je fais cette analyse-là parce que maintenant je sais qu'il y a énormément de leucémie et de cancer et de Parkinson, etc., qui sont liés aux pesticides et à l'environnement. Moi-même, je ne peux pas dire exactement si c'est ça qui m'a provoqué la leucémie, parce que dans notre ADN, on a des fragilités, et on se trouve à des moments peut-être plus difficiles, plus compliqués, où effectivement les maladies se développent. Mais malgré tout, si je me souviens bien, quelques années auparavant, quand je me suis installée dans mon village, quand on a construit notre maison, le voisin faisait passer sur son champ un avion. Donc on était... Il pulvérisait des pesticides.
Pas avec un tracteur, avec un avion.
Avec un avion au début. Donc quand on sait que pour déclarer une maladie, notamment la leucémie, ça met quelques années, pour moi, ma lecture, c'est qu'effectivement, j'ai peut-être à ce moment-là fait déraper mes cellules et que plus tard, donc, j'ai eu cette maladie, quoi. Mais je ne peux pas le prouver. Je sais que dans la liste que Madame H m'avait donnée, il y avait effectivement le benzène, les pesticides, etc. quoi. Elle m'avait même demandé si j'étais partie en voyage à l'étranger. Effectivement, j'étais partie 2 ans avant, j'étais partie à Rio. Bon, on sait qu'à Rio aussi, ils ne font pas très très attention et qu'il y a beaucoup de pollution. Donc, il y a plusieurs raisons à tout ça. Mais en tout cas... En m'étant renseignée auprès de générations futures, auprès des spécialistes, on sait que maintenant, les maladies comme ça, les cancers, sont provoqués par l'environnement. Voilà. Et je trouve ça complètement absurde que rien ne se fasse, évidemment, et qu'on continue, et qu'il y a vraiment des gens, en plus, qui sont complotistes, qui disent « Oh, mais non, tu manges bio, mais c'est ridicule, ça sert à rien, de toute façon, c'est pas vrai. » Voilà, donc, les gens n'y croient pas. Tant qu'on n'est pas touché, on pense qu'on ne risque rien, et qu'on peut tout faire à la planète, comme c'est pas un problème.
Alors, ces agriculteurs, ces viticulteurs, là, c'est encore une catégorie, peut-être...
Oui.
Un cran au-dessus, oui. qui répondent leurs produits. Enfin, moi, je ne sais pas exactement, je ne peux pas parler pour eux, je ne connais pas trop leur situation, mais ne se sont pas laissés emporter par un système de produire toujours plus, en étant forcément obligés de traiter plusieurs fois dans l'année. Oui. Bon, personnellement, moi, j'ai vécu à côté d'un champ aussi, quand j'ai vivé dans le Nord. Et une année, il y a eu un champ de patates. Et ces patates étaient pré-vendues, en quelque sorte, dès qu'elles ont été plantées. C'était pour faire de la frite surgelée. Donc la société de frites surgelées avait un œil très régulièrement sur ce champ de patates et qui a subi 4 voire 5 traitements, je ne sais plus exactement, sur le temps de... Et donc, ces jours-là, on fermait les
fenêtres,
les baies vitrées, on se calfeutrait, on ne mettait pas de linge dehors, mais... Voilà, être voisin d'agriculteur, ce n'est pas toujours évident. J'ai aussi un ami qui, lui, était amoureux des arbres. Il a acheté un grand terrain et qu'il a réaménagé, restructuré, et sur lequel il y avait des arbres anciens. Donc, dont il était amoureux. Et il avait aussi des champs autour de lui. Donc, il a eu des arbres qui ont été morts à cause des traitements. Alors, bien sûr, les arbres, c'est peut-être moins important que les humains, mais comme vous disiez, quoi, rien... Enfin, c'est pas neutre du tout, tout ça. Donc, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, Will était allé à la rencontre de Frédéric et Hélène à Ambialé, en avril de cette année. Et si vous voulez bien, on va réécouter un petit extrait de l'émission que Will avait réalisée. Je pense qu'il va nous proposer un petit extrait plutôt de la fin où il y a un appel qui est lancé.
Ah oui, on profite de l'occasion donc parce que nous, c'est pas possible qu'il y ait un cluster ici, puisque on vit dans une zone, donc zone montagne, même si on est à 200 mètres d'altitude. Les habitats sont très espacés. C'est essentiellement peuplé de personnes assez âgées, donc il y a peu de naissances. Donc il ne peut pas y avoir de cluster de bébés sans bras ici, puisqu'il y a trop peu de naissances. Et quand il y a naissance, elles sont espacées de 10 ou 15 km. Ce n'est pas comme dans l'Ain ou des zones plus densément peuplées. Donc on lance un appel. Si dans le Tarn, vous avez connaissance, ou si vous êtes malheureusement victime comme nous des pesticides et notamment des histoires de bébés sans bras, pour monter une association, pour lutter, pour faire valoir nos droits et le droit de nos enfants surtout. Nous on est prêt à faire des actions, à monter quelque chose, et puis aussi plus globalement pour les citoyens, parce que pour un monde meilleur, la fin des pesticides, et puis pour qu'il y ait un monde aussi tout court, parce que là, au rythme où ça va, il y a 30% des insectes ou 50% des insectes qui ont disparu à l'échelle de l'Europe. L'eau des rivières, c'est une vraie catastrophe. Ça, c'est la politique agricole européenne qui l'a provoquée. Et donc, pour qu'il y ait un monde, on n'en est pas à se poser la question d'un monde meilleur. La question, ça va être pour qu'il y ait un monde tout court demain. Donc vous pouvez nous contacter.
Après, on est soutenu aussi par Tarn sans pesticides qui est vraiment dans chacune de nos actions nous soutient et qui est prêt aussi à nous soutenir juridiquement si se passe quelque chose.
Donc voilà, on vient de réécouter l'extrait d'une émission que Will avait réalisée en avril 2021 auprès de Frédéric et Hélène à Ambialé. Bon, là, on va peut-être revenir à votre livre. Eux, apparemment, n'ont pas écrit de livre, mais les émissions radio peuvent être utiles, hein, puisque Will nous a appris que depuis la diffusion de l'émission, la petite fille qui avait été déclassée de son statut handicapé par la MDPH a été à nouveau reconnue comme handicapée. Oui, j'avoue que ce cas m'a personnellement vraiment beaucoup émue. Et alors, j'ai une question à vous poser, mais vous y répondez déjà partiellement dans votre livre, mais je voudrais savoir si aujourd'hui vous voudriez ajouter des choses. Parce que la question, c'était, alors pourquoi avoir écrit ce livre, Le souffle du sang? Et alors là, vous répondez, 1, pour vous, 2, pour ne pas sombrer, 3, pour les rencontres de toute une vie, qui m'ont depuis toujours donné envie de ne pas oublier, 4, pour noyer les blessures, 5, pour ne pas qu'on m'oublie. 6. Pour le mythe romantique et désuet de l'écrivain que j'aurais voulu être. Dans la fire des tombes, l'être humain est plein d'orgueil. Et 7. Pour le fil tissé autour de la terre et combattre les riches fabricants de poison. Est-ce que vous êtes toujours totalement en accord avec ça?
Totalement, parce que effectivement, quand vous parliez d'arbres, par exemple, ben, on sait très bien que les arbres sont importants pour qu'on puisse respirer. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus. Il parlait des rivières aussi. Moi, j'ai une amie qui vit en contrebas de chez moi et qui a des chevaux. Même les chevaux ne veulent plus boire l'eau du puits parce que donc le paysan en question, ils sont nombreux sûrement, s'étale le plus loin possible, il va dans les fossés, il va dans les rivières, et il s'en fout royalement, parce qu'il nous dit, je nourris les gens, parce qu'on ne peut pas tous acheter à Sobio ou à la Biocoop, et je nourris les gens. Mais moi je me dis que si c'est ça, nourrir les gens, c'est pas très bien, quoi. Alors après, autre chose aussi donc, que je voulais préciser, c'est qu'on sait que Monsanto et Bayer donc, ont été réunis. Et il faut savoir quand même que Monsanto et Bayer sont ceux qui nous soignent et sont ceux qui nous polluent aussi. Donc c'est vraiment un cercle vicieux. Et franchement, dès que j'ai l'occasion, j'en parle autour de moi parce que bon, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Et j'essaie de convaincre les gens, effectivement, que c'est une nécessité.
Mmh. Enfin, pour eux, je pense qu'ils doivent le voir plutôt du côté cercle vertueux.
Oui.
Voilà, on va les empoisonner, après on va les traiter.
Exactement.
Et tout ça rapporte exactement. De l'argent. Donc...
Exactement. Et donc, dernière chose aussi, on parle actuellement de la Covid énormément, bien sûr. Et moi, je me pose la question, parce que les cancers tuent sûrement plus que la Covid.
Bien sûr.
Voilà. Non pas que je minimise la Covid, c'est important, il faut faire attention, c'est logique. Mais je me dis, finalement, où il vaut mieux porter le masque ? À la campagne ou dans les rues d'Albi ? Je me pose la question, voilà. Parce que, effectivement, dernièrement, mon voisin m'a appelé, parce que j'avais fait passer un article sur le journal, sur le Facebook du village où je vis. Je ne citerai pas de nom parce que je ne veux pas embêter les gens, ce n'est pas mon objectif. Et il m'a dit, ah bon, ce matin-là, tu ne marches pas hein, autour de mon champ. Hein. C'est pas méchant ce que je passe, mais bon, évite de marcher, quoi. Évite de marcher. Donc je me dis, voilà, je vis à la campagne parce que j'aime bien être entourée d'arbres et de champs et de vaches. Mais j'aurais préféré être entourée de vaches avec les mouches, parce que dans mon enfance, effectivement, il y avait beaucoup de mouches, beaucoup d'animaux. Et on se battait avec les fenêtres, quoi. On fermait les fenêtres tout le temps, parce que sinon notre grand-mère nous grondait. Mais c'était beaucoup plus agréable que ce poison qui nous tue.
Mmh.
Et vraiment, c'est un poison qui nous tue.
Mmh. Il n'y avait pas le petit rouleau de scotch là pour attraper
tout
les mouches.
À fait. Oui, oui. Maintenant, j'en ai même plus besoin parce que je pense que les mouches, elles viennent même plus chez moi.
Alors qu'il y a de l'élevage à proximité, c'est
ouais.
Ça.
Oui, oui. Mais mm-hmm. Bon, il y a surtout du blé en face et donc c'est quand même un petit lotissement, donc les champs sont au milieu des habitations.
Mm.
Et je me suis fait encore gronder d'ailleurs parce qu'il m'a dit « Mais pourquoi t'as coupé la haie ?» On a coupé la haie parce qu'on en avait marre de tailler les sapinettes. « Mais pourquoi t'as coupé la haie ?» J'ai pas eu le réflexe de lui dire « Mais c'est toi qui dois faire pousser une haie, quoi. C'est pas forcément moi.
Mmh. »
Voilà. Donc c'est compliqué, l'entente entre les néo-ruraux et les agriculteurs qui ont l'impression que la terre leur appartient. Mmh. Mais moi j'aime les paysans, c'est-à-dire ceux dans mon enfance qui protégeaient la terre.
Bon, il y en existe encore.
Il en existe encore.
Tout à l'heure, vous avez cité Biocoop et Sobio. Là, on a fait un peu de publicité. Mais on peut parler des AMAP aussi,
oui,
peut-être.
Oui, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Non, il y a des gens qui font des efforts, mais c'est encore pas suffisant.
Oui, c'est sûr que globalement, ça ne domine pas.
Voilà.
Alors, j'ai envie de vous replonger dans une autre ambiance.
Allez-y.
J'ai choisi un autre extrait. Mémé Marthe reste souvent assise près de la fenêtre, côté route. Elle colle ses pieds à côté de la cuisinière émaillée de blanc. C'est la même qu'au tremble, mais il n'y a pas tout à fait les mêmes odeurs et la même lumière. Les fenêtres sont plus petites et les murs plus hauts. On sent aussi le lait de brebis qui transpire à travers la porte de la souillarde. Comme il y a moins de chambres, je dors avec Mémé, au grenier. Quand elle se met au lit, je vois le dessous de ses pieds. Ils sont noirs, vraiment noirs. Avec Jeanne, on se moque un peu d'elle et de cette aversion pour l'eau. Elle vient parfois chez nous, à la ville. Alors ma mère se met en colère pour qu'elle se lave. Peu m'importe, j'aime bien dormir au grenier. Enfin, on dort dans une chambre minuscule. Pour y arriver, on traverse la grande pièce remplie de linge qui sèche, de paniers, d'ustensiles disparates. C'est une chambre peinte en bleu pâle. Avec le pan de mur droit, un lit bateau recouvert d'un édredon énorme et de gros coussins. Mémé dort presque assise. Et en bout de lit, une petite fenêtre ratatinée dans l'épaisseur des murs. Cette lucarne donne sur la cour intérieure, de là, je peux voir tout le hameau et les beaux toits de l'Auze. Donc on voit qu'il n'est pas du tout question que de la maladie dans ce livre.
Non, non. Non. Je parle beaucoup d'ailleurs de ces deux aspects, c'est-à-dire mes racines du Lévézou, vers Vezin, et mes racines du Rouergue, donc à côté de Rodez. Voilà. Donc j'ai voulu faire honneur aussi à ma famille, où tout n'était pas rose, mais où c'est grâce à eux que j'écris en plus. Donc, pour la petite histoire, je dis souvent que ma muse, moi, c'est pas Omar, comme un des poètes que je cite dans le deuxième roman, un écrivain. C'est pas le homard, c'est pas la mer, c'est la mouche qui vient à côté de mon oreille et qui me pousse parfois à écrire et qui me fait remonter dans mes souvenirs d'enfance, puisque de toute façon, on ne peut dire que l'imagination, c'est quelque chose de flou, on ne peut pas, ça sort pas comme ça du ciel, hein. C'est quelque chose de très particulier et ça s'enracine automatiquement dans ce qu'on est et dans ce qu'on a été. Voilà. Alors c'est pas un ouvrage passéiste, je suis pas dans le passéisme, je suis pas dans le régionalisme non plus, je suis plus dans un cheminement de l'écriture et comment ça se passe réellement. Ceci dit, je mets beaucoup de temps à écrire. Quand je fais un roman, je passe beaucoup de temps. Parce que pour moi, c'est pas, je n'aime pas ce que j'appelle les hémorragies digestives de certains auteurs. J'aime bien garder voilà, ce qui est le plus important pour moi et ce qui va être le plus beau et le mieux écrit. Voilà, c'est très important pour moi, ça.
Donc là, pour écrire cet ouvrage, Le souffle du sang, donc vous avez commencé à écrire en étant hospitalisé.
En 2012.
Voilà, et ensuite, comment ça s'est passé? Vous y avez retravaillé derrière?
Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, au début, j'ai mis du temps parce que, au début, je ne pouvais plus me replonger dans ces moments-là, et même dans ce que j'avais écrit sur un cahier, en fait, parce que j'avais des nausées. J'avais voilà, des réminiscences de nausées, donc j'ai laissé un peu tomber pendant pas mal de temps. Et après, j'ai repris.
Il a fallu prendre du recul.
Oui, j'ai pris du recul, voilà.
Alors, si vous voulez bien, on va faire une petite pause musicale. Et
tout à fait.
Je vous laisse dire qui vous avez choisi et pourquoi.
Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pour quelle raison, parce que je comprends très mal l'anglais. J'ai une passion pour Bruce Springsteen. Et... j'ai l'impression que je comprends ce qu'il dit, ce qu'il chante. C'est un mélange avec l'harmonica qui est important parce que mon papa jouait de l'harmonica, sans doute c'est lié, voilà.
Alors on l'écoute.
I come from down in the valley where Mr. Winger. They bring you up to do like your daddy done. Me and Mary, we met in high school when she was just 17. We drive out of this valley down to where the fields were green. We go down. Went down to the river, and into the river we died. Oh, down to the river we did ride. Yeah.
and company. But lately there ain't been much work on account of the economy. Now all them things that seem so important, well, mister, they vanish right into the air. Now I just act like I don't remember. Mary acts like she don't care. But I remember us riding in my brother's car, her body tan and wet down at the reservoir. At night on them banks I'd lie awake and pull her close just to feel each breath she'd take. Those memories come back to haunt me. They haunt me like a curse. Is a dream a lie that don't come true? Sends me down to the river. Oh, I know the river is dry. It sends me down to the river tonight. Down to the river, my baby and I. Oh, down to the river.
The Rivers de Bruce Springsteen, sorti sur l'album éponyme en 1980, et on retrouve Paz et son invité Martine Gobi autour de son livre Le souffle du sang.
Et ben voilà l'occasion de remercier Will pour son qu'il assure grave à la technique et à la musique. Merci Will. Alors si vous le voulez bien, on va reprendre avec un autre extrait qui porte sur le milieu hospitalier cette fois-ci, parce que vous y avez quand même passé un certain temps. Encore un jour. Ce dimanche 16 décembre, 9h48, le soleil est déjà haut dans le ciel, comme un jour d'été sur la plage. Aujourd'hui, je reçois la dernière fiole du premier protocole de destruction massive. Je vais, paraît-il, commencer à être un peu plus fatiguée. Ça me fera des vacances. Je dormirai. C'est ma voisine qui sera contente. Elle est agacée par ma voix, par mes visites, par mon agitation. Normal. La promiscuité dans la maladie, c'est pas ce qu'il y a de mieux, surtout dans une chambre qui mesure à peine 20 mètres carrés. Rajoutez à tout cela les gargouillis du corps blessé par les médicaments, et c'est la crise de nerfs. Imaginez aussi les odeurs. Les odeurs des repas sous cellophane. Poisson, omelette lyophilisée, confiture acide du matin. Même les haricots verts puent. Il est impératif que les milieux hospitaliers se penchent sur la question culinaire. Le moral, 50% de guérison. Le goût ferait peut-être le reste. Les repas sont notre rythme, notre repère journalier, comme les petits vieux dans les maisons de retraite. On attend l'arrivée des filles. D'abord, elles sont adorables, elles nous parlent. Ensuite, elles nous apportent le plateau. J'ai la nausée. Donc voilà un des extraits où vous parlez de vos conditions de vie.
Oui. Alors effectivement, ce sont les parties les plus. Enfin, c'est très très pénible effectivement, puisqu'au début on était deux par chambre. Après, j'ai pu avoir une chambre où j'étais toute seule. Ça allait mieux. Mais effectivement, après, c'est j'ai de très très bons souvenirs de l'Oncopole et même de la première fois, donc à Dieu la foi. À Purpan, parce que les infirmières, les femmes de salle, les agents de nettoyage, et puis bien sûr les internes dont j'ai des très très bons souvenirs malgré les souffrances qu'il me faisait subir. J'ai de très très bons souvenirs de cette période-là. Je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire que en aimant l'écriture, en tout cas, on se resserre et on se reconcentre sur soi-même. Voilà, on s'occupe plus du reste et c'est comme si on était en ermitage, en fait. Voilà. Donc j'ai de très très bons souvenirs, effectivement, et j'ai de très bons souvenirs aussi de l'association de l'ACMOMP où des personnes donc passent régulièrement nous voir, nous expliquer, et surtout un petit groupe, notamment Mariko, qui est art thérapeute et qui m'a fait dessiner, qui m'a fait peindre, et ça c'était très important parce que malgré tout on s'ennuie quand même, hein. c'est compliqué, les journées sont longues. Après, le plus dur, c'est l'enfermement, les 45 jours dans la bulle, ce que j'appelle la bulle, puisque c'est là qu'on nous met à plat et qu'on nous fait la greffe. Donc là, c'était très difficile, surtout à Purpan, parce qu'on avait vraiment, c'était vraiment un quartier terrible. Voilà. Là, c'est vraiment horrible. Enfin, c'est ça qui m'a provoqué cette peur, quoi, cette anxiété, parce que c'est vraiment un moment très difficile. Je ne peux même pas le décrire, je ne peux même pas l'expliquer. On est enfermé, on est fatigué, on ne voit personne, on communique avec l'extérieur juste par un téléphone.
Oui, puisque vous êtes dans un milieu totalement stérile.
Totalement stérile. Et donc, c'est une grosse souffrance. J'ai eu plusieurs fois envie de me suicider, d'ailleurs. À la fin, là, je n'en pouvais plus. Parce qu'on ne peut rien faire, on est comme un animal avec des fils partout, on ne mange pas, ça c'est sûr qu'on ne mange pas du tout. Même si on nous dit qu'il faut manger pour sortir de là, parce que sinon vous ne pourrez pas sortir. Mais bon, on est tous pareils, quoi. Et donc, effectivement, bon, moi j'ai eu beaucoup de chance finalement, parce que j'ai eu, grâce à Madame H encore, que je salue bien fort, j'ai pu participer à un protocole d'immunothérapie, ce que j'appelle le baobab dans mon livre, parce que j'arrive pas à le prononcer, c'est blinatumomab. Donc c'est de l'immunothérapie qui m'a sauvée, parce que la greffe n'a pas suffi. Par contre, effectivement, il faut effectivement insister sur le fait que le don de moelle, c'est quelque chose de très 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 important, ça peut sauver des vies. Il y a des gens qui font des dons qui ont une greffe de moelle et qui s'en sortent et qui vivent encore. Alors actuellement, même il y a 20 ans, hein, j'ai croisé des gens qui sont en vie grâce aux dons de moelle. Donc il ne faut pas en avoir peur, ça ne fait pas très mal. Et en France, malheureusement, on est peu nombreux. Donc d'ailleurs, moi, c'est un Belge qui m'a donné sa moelle. Voilà, je ne sais que ça de lui.
Et vous dites assez ironiquement dans le livre, est-ce que je vais me réveiller avec une envie de frites?
De frites et de moules, oui, effectivement. Effectivement.
Ouais, donc ce livre, en plus de... Bon, il pointe... Bon, il a des qualités littéraires, il pointe des soucis sociétaux des pesticides, là, dont on a parlé dans la première partie. Et moi, je trouve qu'il a aussi une force, c'est qu'il donne de l'espoir. Oui. Puisque vous témoignez d'un parcours qui a été très difficile, chaotique, mais aujourd'hui...
Je vais très très bien. Je vais vraiment très très bien. Depuis, je fais attention aussi à moi. Je mange encore plus bio qu'avant. Et toute ma famille, c'est pareil. On est tous à la même enseigne. Et oui, je suis heureuse de vivre.
Et vous disiez tout à l'heure qu'il existait aujourd'hui de nouveaux traitements.
Oui, alors justement, l'immunothérapie, c'est en plein boom, oui. J'espère d'ailleurs que mon traitement, j'étais une des premières à Midi-Pyrénées à expérimenter, donc j'étais un cobaye en fait. J'ai eu la chance d'être cobaye parce que ça m'a sauvée. C'est grâce à ça que je suis en vie aujourd'hui. Et je pense que mon traitement maintenant passe dans le... est utilisé pour tout le monde quand c'est utile, parce que c'est un protocole très particulier. Il faut d'abord avoir eu la greffe, et une greffe qui n'a pas réussi, et donc à ce moment-là on peut prendre ce traitement.
Alors voilà, on était ensemble pour le souffle du sang. Mais alors depuis, vous avez un autre livre qui a été édité, J'ouvre la fenêtre et j'attends. Juste quelques mots peut-être sur ce livre et puis
oui,
ce sera peut-être l'occasion de revenir.
Oui, donc ben, ce livre, effectivement, c'est un livre d'espoir. Hein. C'est un roman moins autobiographique que le premier, bien sûr. Et donc, c'est une ode à l'amour, en fait. Mais une ode à l'amour, pas uniquement sur les rapports intimes entre les personnes, mais c'est aussi par rapport à la nature, par rapport au paysage que j'ai traversé justement, notamment le Pas-de-Calais que j'aime beaucoup. C'est une ode à l'amour et à l'espoir.
Bon, on aura peut-être l'occasion d'en parler si vous revenez sur les ondes. Et est-ce que vous avez des événements prévus où le public pourrait vous rencontrer ?
Oui, bien sûr. Donc, sur l'Albigeois, c'est sûr qu'il y a pas mal de gens qui connaissent déjà mon bouquin, mais peut-être qu'il y en a encore qui ne l'ont pas. Donc, je serai au Salon du Livre Terra Lire, qui est un salon des éditeurs, qui se passera, je crois, à la Tanor. Et c'est le 19 et 20 juin. Je partirai aussi au Salon de Groyer le 27 juin, le 18 juillet à Arvieux, qui est un village extraordinaire dans l'Aveyron. On devrait d'ailleurs prendre exemple sur eux parce qu'ils sont très très actifs, c'est tout petit, mais ils sont très actifs au niveau de la culture et de la musique. La Fouillade aussi dans l'Aveyron le 25 juillet, qui est un salon très intéressant aussi, avec beaucoup, on est nombreux, il y a beaucoup de monde. Voilà, pour l'instant j'en suis là, je cherche de temps en temps des dédicaces de ci, de là, voilà.
Alors je ne sais pas si les librairies d'Albi ont repris les invitations d'auteurs.
Non, alors bizarrement, dans les librairies d'Albi, je n'arrive pas à m'intégrer.
Ah.
Alors, pour quelles raisons ? Je n'en sais rien. Sûrement parce que je suis une petite écrivaine et parce que je fais de la littérature. Parce que je vois que les gens qui sont invités ne font pas forcément de la littérature. Ça peut être des bouquins d'art, des bouquins avec beaucoup de photos, des bouquins plutôt régionaux. Mais les gens ont peur de la littérature. S'il n'y a pas un titre ou une histoire rocambolesque, voilà, ça, c'est compliqué. Mais peut-être parce que les libraires sont là pour... effectivement, ils sont là pour faire, pour vendre, beaucoup vendre, quoi. Mais je les appelle, oui, effectivement, je les appelle. Et je suis capable, effectivement, de faire des conférences, puisque j'en ai déjà fait aussi. Je suis capable de parler des bouquins. Je suis capable de parler de l'écriture, parce que ça m'intéresse beaucoup. Notamment, j'ai une écrivaine qui me guide, et notamment son bouquin qui s'appelle Écrire, de Marguerite Duras. Je le relis souvent, parce qu'effectivement, elle est proche de ce que moi j'aimerais faire. Après, je suis loin d'elle et loin de sa production, mais c'est mon phare, on va dire.
Joli phare.
Ouais, je crois, oui, je crois.
Voilà, l'émission arrive à son terme. Aujourd'hui, nous avons discuté autour du livre de Martine Gobi, Le souffle du sang, qui n'est pas son dernier. Donc, on aura peut-être la chance de la retrouver sur les ondes prochainement. Voilà, et bien, un grand merci d'être venu à la radio.
Merci à vous.
Et à Alcob Québec.
Merci à Paz qui recevait Martine Gobi pour son livre paru en 2017, Le souffle du sang, une entrevue enregistrée le 1er juin 2021.